Frères et sœurs bien-aimés, ce premier dimanche de carême est appelé traditionnellement le dimanche de la tentation. Et cela nous donne l'occasion de réfléchir comment surgit une tentation et que faire avec la tentation. La tentation, elle surgit dans l'imagination. Et le démon envoie des images, sollicite notre imagination pour nous faire voir quelque chose de bon alors que c'est quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui s'oppose à notre bonheur. Et donc, lutter contre la tentation, c'est avoir une certaine responsabilité de ce que l'on laisse entrer dans notre imaginaire, d'avoir une certaine garde des yeux. Non, on ne peut pas tout voir, tout entendre. Cela a des impacts même au plan spirituel. Et donc, c'est une responsabilité qui nous invite, nous-mêmes et chacun d'entre nous, à nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur et à être attentifs. Combien de personnes tombent dans le péché parce que ils n'ont pas eu une garde suffisante à leur imaginaire. Je me souviens de ce cas, ce fait divers dramatique d'un jeune homme qui, avec sa voiture, fonce sur quelqu'un, tue cette personne, et les gendarmes l'arrêtent et disent « Mais vous avez perdu le contrôle de votre véhicule ?» Non. Je voulais voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Et il mène l'enquête plus avant et il découvre que ce jeune homme regardait des H24, des jeux vidéo extrêmement violents, on tuait des gens, on décapitait des gens, on leur faisait subir toutes choses d'atrocité. Alors oui, on comprend, déjà dans son imaginaire, il y avait en puissance, on peut dire, ce crime qu'il a commis. Et on voit aujourd'hui, à juste titre, les gens s'insurgent contre la question de l'inceste, parce que ça touche des personnes connues, comme si les journalistes redécouvraient l'inceste, alors que ça fait partie d'un des premiers interdits de la Bible. Mais qui va dénoncer la pornographie de masse ? Qui va dénoncer ces images pathologiques qui viennent peupler notre imaginaire, qui déjà nous induisent à passer à l'acte. Donc nous sommes responsables de notre imagination. L'imagination, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle fait partie de notre vie intérieure avec la mémoire et la cogitative. L'imagination, dira Aristote, pour les jeunes, elle remplace l'expérience. Donc l'imagination peut aussi servir de façon très positive. Ne serait-ce pour faire cette homélie, eh bien, j'ai dû faire fonctionner mon imaginaire. Qu'est-ce que je vais dire à ces personnes qui sont là? Mais aussi le chercheur. Qu'est-ce qui fait la différence entre le chercheur et le trouveur? Ben, c'est l'imagination. L'imagination, parce que le trouveur, celui qui en science, et on a une trentaine de jeunes étudiants qui viennent réviser leur concours aux grandes écoles, pour la plupart scientifiques, eh bien le trouveur, c'est celui qui a l'imagination, qui, de certaine manière, il cherche ce qu'il a déjà trouvé dans son imaginaire. Donc, c'est intéressant de voir que le Seigneur, à travers l'imagination, peut aussi nous conduire. Et l'Esprit de Dieu peut s'adresser à notre imaginaire. Et c'est important que notre intelligence elle ait un certain nombre d'images pour pouvoir travailler. Donc, attention, il ne s'agit pas de fustiger l'imagination, mais il est intéressant de voir que nous avons chacun un rapport à l'imaginaire différent. Il y a des personnes qui ont un imaginaire extrêmement fleuri. C'est un film 3D, couleurs en permanence, bon, c'est très bien, pourquoi pas. Ben, ces personnes-là, qui, du coup, avec le danger de rester un peu dans ce monde qui n'est pas le vrai monde, qui n'est pas le monde réel. Et donc, à ces personnes-là, il est bon de conseiller aussi de de revenir à la réalité, de revenir sur le plancher des vaches. Et alors là, il y a toutes sortes de méthodes justement pour aider la personne à réhabiter le réel. Mais c'est intéressant de voir que cette imagination, elle peut être mise au service du bien. Donc, il y a comme un combat spirituel qui se joue dans notre regard, dans nos yeux, dans ce qu'on laisse peupler notre imaginaire. Il y a un combat intérieur. Et pour ce combat intérieur, nous ne sommes pas démunis, parce que si le démon s'adresse à notre imaginaire, et c'est ça la tentation, il nous fait imaginer comme quelque chose de bon, quelque chose qui au contraire est source de souffrance. Mais l'Esprit de Dieu aussi s'adresse à notre imaginaire. Et donc dans le combat spirituel que nous avons à mener, eh bien c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Où est l'Esprit de Dieu? Où est l'Esprit de Satan? Où est l'Esprit qui me conduit à la communion? Où est l'Esprit qui me conduit à l'éloignement de l'autre et à l'enfermement sur moi-même? Les deux, j'allais dire, sont en nous. Nous sommes assiégés dans ce combat spirituel. Nous sommes, voilà, d'une certaine manière, au cœur même de quelque chose qui va au-delà de nous. Alors oui, c'est la parole de Dieu d'aujourd'hui nous donne un certain nombre d'indications, sachant que les tentations, même si ce n'est pas détaillé dans ce passage de saint Marc, ça l'est dans saint Matthieu et saint Luc, eh bien, elles sont toujours autour de trois grands pôles, on peut dire, de tentations. Rien de nouveau sous le soleil. Les tentations liées à la chair, avec boissons, nourriture, sexualité, drogue, etc. Tout ce qui touche le corps. La tentation liée à l'argent, aux possessions. La tentation liée à la toute-puissance. Et derrière ces tentations, la toute-puissance de l'esprit. Et parmi cette toute-puissance de l'esprit, c'est évidemment évincer de notre vie la présence du Seigneur. C'est la plus grande des tentations. C'est évincer de notre vie la présence du Seigneur. Et donc, c'est intéressant de dire que, à travers ces trois tentations, on a en face ce qu'on appelle les trois conseils évangéliques. Conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. La chasteté, un juste rapport avec mon corps et celui de l'autre. L'obéissance, une humilité par rapport à la parole de Dieu. Et puis, une humilité face, les uns en face des autres. Et la pauvreté, une modestie dans l'usage des biens matériels. Remarquez bien que ces conseils évangéliques sont valables pour tous ceux qui veulent vivre l'Évangile. Alors, les religieux que nous en faisons profession, c'est-à-dire nous organisons notre vie autour de ces conseils évangéliques parce que nous avons voulu répondre, et nous voulons répondre à l'appel du Seigneur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Mais c'est intéressant de repérer parmi ces trois grands pôles de tentation et qui se déclinent à l'infini, mais quel est là où je suis peut-être plus fragile, là où mon imaginaire me joue des tours, là où j'ai peut-être manqué de prudence dans ce que j'ai pu voir ou entendre ou expérimenter. À travers ce combat intérieur, d'une fois qu'on a repéré, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a toujours un pôle, bon, déjà la toute-puissance, l'orgueil de l'esprit, ben, nous touche tous, on a ce point aveugle, ce point mort, cet angle mort dans notre vie, on ne voit pas quel est vraiment... En quoi on peut être orgueilleux? C'est toujours ça. D'où l'importance de se faire aider. De se faire aider. Un certain nombre de vous qui êtes parents, vous êtes en couple. Voilà, c'est aussi l'aide aussi que vous pouvez vous apporter de découvrir, de débusquer la part de l'orgueil qu'il y a en vous. Et nous qui sommes en communauté, pareil. On s'aide pour pouvoir débusquer ça. Je me souviens comme ça d'un monsieur qui vient se confesser et il dit « Mon père, je ne sais pas quoi vous dire ». Ben je dis, allez voir votre femme. Il est revenu avec une encyclopédie. Donc du coup, voilà, parce que justement, on a un point aveugle. On a quelque chose qui... On n'arrive pas à trouver les choses. Et donc, parmi ces trois pôles de tentation, voilà, ça, il y en a un qui nous est, et selon les âges de la vie, c'est différent, etc. Donc, de dire où est-ce qu'on en est de cette pratique de l'Évangile, de ces conseils évangéliques qui sont valables pour tous ceux qui veulent vivre l'Évangile, hein, qui sont au fond l'accueil d'une certaine limite. Parce que ces trois grands pôles de tentation, ces trois grandes toute-puissances, toute-puissance de la chair, toute-puissance de l'esprit, toute-puissance de l'argent. Et nous sommes touchés, c'est des conséquences en nous du péché originel. Nous sommes, donc premièrement, prendre conscience de ça. Il y a quelque chose en nous qui est comme fragilisé, comme une faille. Et donc d'être attentif à ne pas nourrir, alimenter ce qui pourrait justement nous faire chuter. Mais nous ne sommes pas dépourvus dans ce combat spirituel. Nous ne sommes pas dépourvus parce que nous avons, et le texte nous invite à réfléchir dessus, nous avons plusieurs moyens de lutter contre. Premièrement, là, aussitôt, l'esprit le pousse au désert. Mais il y a déjà deux manières de lutter contre. C'est la présence du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit ? Nous sommes habités par l'Esprit du Seigneur, par le baptême. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes et à nos tentations et à nos imaginations débordantes et parfois polluées. Non, nous sommes aussi comme soutenus par l'Esprit du Seigneur. Et dans ce temps de carême, est-ce que c'est peut-être l'occasion d'aller plus avant ? Dans cette communion avec l'Esprit Saint, l'Esprit qui parle à notre esprit, qui parle à notre imaginaire, mais aussi qui emmène Jésus au désert. Et ça me fait penser, je me dis, tiens, c'est aussi la dimension contemplative de nos vies. Parce qu'il n'y a pas que les religieux, les moines qui sont des contemplatifs. Tous nous sommes amenés à avoir une vie intérieure, une vie contemplative. Où est la part de désert, la part de vie contemplative ? La part de silence, la part de solitude dans nos vies, qui est un moyen justement de peut-être de prendre plus conscience de son combat intérieur, combat spirituel, mais un moyen aussi de lutter contre. Et puis il y a un troisième mot qui attire mon attention, c'est la présence des anges. Dans les trois récits de tentation, hein, les trois évangélistes parlent de la présence des anges. Les anges s'adressent aussi à notre imaginaire. Si on leur demande de nous soutenir, ils soutiennent notre vie spirituelle, hein, notre ange gardien, hein, ces créatures célestes que le Seigneur donne pour soutenir, nous soutenir dans le combat intérieur. C'est intéressant de voir la présence des anges au moment de la lutte contre le démon au désert, dans cette lutte contre la tentation, mais aussi la présence des anges dans la vie de Jésus au moment du grand combat, de l'agonie. Vous savez dire que agonie en grec, ça veut dire combat. Hein ? Là, il y a eu une présence des anges. Et les anges sont là pour nous soutenir dans notre combat. Je te demande, ange gardien, de me soutenir. Je sais que je suis fragile dans ce pôle-là de tentation où là, j'ai moins ma volonté est plus faible. Je chute plus facilement. Où est-ce que vous en êtes de la présence des anges gardiens dans votre vie ? Notre fondateur, le Père Lamy, un mystique qui voyait le bon Dieu, la Sainte Vierge, les anges comme je vous vois, eh bien, a insisté beaucoup sur ce rôle des anges. Mais aussi la question de la confession. Nous avons cette grâce de, si nous avons la tentation qui est antérieure justement au péché, à la chute, à la tentation, c'est nous. On est tenté de critiquer, on est tenté d'être violent, on est tenté d'être malhonnête, mais ensuite, parfois on chute. Ben, du coup, nous avons dans l'Église catholique la grâce de pouvoir accueillir la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, sacrement de la confession. Et c'est pas facile de se confesser parce qu'on se dit oui, mais c'est un homme comme un autre, ce qui est juste, le prêtre aussi se confesse, hein, parce que lui aussi chute, lui aussi est en fragilité, comme tout un chacun. Nous sommes de la même pâte humaine. Mais Dieu nous donne des médiateurs Oui, Dieu nous donne des médiateurs pour justement ne pas désespérer de nous-mêmes. Et j'aime cette parole de saint Benoît qui dit « Se confesser, c'est fracasser la tentation contre le Christ ». C'est-à-dire confier au Seigneur notre combat. Alors souvent on me dit « Mais vous savez, mon père, je confesse toujours la même chose ». Oui, ben, ça tombe bien, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. « Ah ben mon père, j'ai tué, voilà, ceci, non, non, on ne vous demande pas. Ce n'est pas un divertissement pour le prêtre. Vous voyez, il ne s'agit pas de... » Oui, parce que tous, encore une fois, nous avons un point faible, ou des points faibles. Et c'est dans ces points faibles-là, dans notre patte humaine, qu'il y a une fragilité, et nous chutons. Eh bien oui, on se lave bien les mains, surtout en ce moment, on nous lave les mains de façon extraordinaire, le gel qui remplace l'eau bénite, etc. Bon, tous les jours, et plusieurs fois par jour, et on prend sa douche, et bien sûr. Et pourquoi pour l'âme, il n'y aurait pas une hygiène? Vous voyez? C'est intéressant de dire... Alors, c'est pas facile de se confesser pour ça. Puis, c'est pas facile parce que il faut confesser des actes libres. C'est... Ouais, j'avais la tentation... J'ai eu la tentation, par exemple, de la calomnie, de calomnier quelqu'un. Voilà, j'ai cette tentation. Et puis, bon, finalement, je suis tombé. Ma parole, voilà, j'ai pas mis une garde à mes lèvres. J'ai commencé à calomnier, c'est-à-dire dire quelque chose de faux sur quelqu'un. De façon à atteindre sa réputation. Et c'est intéressant de remonter où est-ce que votre liberté a été engagée. Où est-ce que, à un moment donné, vous sentez que vous avez eu le choix et en fait ça a basculé, vous voyez. C'est parfois plus évident dans toutes les formes de dépendance. Hein. La personne alcoolique, par exemple, ben voilà, il sait qu'en sortir de son domicile, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui passe devant le bistrot, il y a le chemin qui passe par... Voilà. Là, il est plus libre que quand il est face à la bouteille, évidemment. Et donc, c'est intéressant de... Où est-ce que confesser des actes libres, confesser où est-ce qu'on a... Et là, on a choisi, on a ployé, on n'a plus lutté. Hein, alors que j'avais encore le choix. Et comme prêtre... Ce qui est parfois difficile, c'est de donner une pénitence. Vous savez que on appelle aussi la confession, on l'appelait, plus, c'est moins habituel maintenant, le tribunal de la pénitence. Bon, c'était un truc un peu ancien, etc. Mais c'est intéressant de dire cette question de pénitence. Hein, alors souvent, comme pénitence, on dit ben, deux pater et trois ave, etc. Ce qui est intéressant, parce que la prière, précisément... Et justement, nous remettre face à la grande altérité de Dieu pour accueillir toutes les limites hein, que les tentations veulent nous faire franchir. Évidemment, les trois pôles de tentation, c'est trois limites à ne pas franchir. Accueillir notre humanité dans le manque. Et donc la prière nous fait prendre conscience de cette grande altérité de Dieu qui nous permet d'accueillir justement les limites. Hein? Mais donner, c'est pas facile de donner une pénitence, j'allais dire, autre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va, moi je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qui va aider l'autre? Comment je peux être intelligent avec la pénitence? C'est-à-dire, comment est-ce que ça va l'aider dans sa vie, vous savez, à gagner en liberté. À gagner en liberté, à gagner en responsabilité. À être... plus connecté à sa vie intérieure et à la source de vie qu'est l'Esprit de Dieu en nous. Donc c'est intéressant, la pénitence est intéressante parce qu'elle a deux buts dans cette dimension-là, c'est réparer et guérir. Hein? Qu'on donne une pénitence, ça peut réparer. Alors bien sûr, si vous avez été malhonnête, vous avez volé 100, ben, vous dites réparer, mais c'est redonner 100, ben, c'est plutôt facile. Réparer une calomnie, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'une fois que ça a traversé vos lèvres, ça a traversé vos lèvres. Vous ne pouvez plus la récupérer, cette parole. Et guérir. Qu'est-ce qui va guérir, justement, ce côté blessé de notre nature humaine, ce côté fragile, ce côté de ce pôle de tentation où je suis plus enclin. Qu'est-ce qui va guérir? Donc la prochaine fois que vous confessez, demandez au prêtre quelque chose qui puisse vous guérir. Alors, le sacrement guérit, mais quelque chose aussi qui prolonge le sacrement au-delà de la célébration de la confession, et qui va vous permettre, de, par des actes concrets, de corriger, justement, vous savez, de corriger quelque chose. On a toujours, c'est un peu comme, vous savez, les voitures, il y a des voitures, on dit, elles tirent à droite, vous savez, vous laissez le volant, on sent le toucher, et hop, là, la voiture, elle est emportée à droite. Bon, ben voilà, c'est, et du coup, il faut redresser. Ben, qu'est-ce que, comme pénitence, va vous aider à gagner en liberté? Donc, nous ne sommes pas sans rien. Nous ne sommes pas sans rien. Le plus difficile, de ne pas prendre conscience du combat spirituel. C'est ça l'aveuglement. On ne prend pas conscience. Ah ben non, pour moi, tout va bien. On ne prend pas conscience qu'il y a, voilà, c'est, qu'il y a une faille, qu'il y a quelque chose. On ne prend pas conscience qu'on est responsable des images qu'on regarde, on est responsable des expériences qu'on fait, et que ce n'est, et que le corps aussi a une mémoire. Et que les expériences sont aussi des lieux qui nous traversent et qui impactent notre manière d'agir. Alors on va demander au Seigneur, dans ce dimanche de la tentation, qu'on pourrait aussi appeler le dimanche de l'imagination, d'une certaine manière, on va demander sa grâce, justement, pour repérer le combat. Qu'est-ce qu'on va vivre comme combat pendant ce temps de carême? Qu'est-ce qu'on va... peut-être mettre plus en avant, être plus attentif à quel combat, et de demander de prendre les moyens qu'il nous donne pour pouvoir triompher de la tentation et gagner dans cette alliance que le Seigneur veut faire avec chacun. Amen.